Bretagne 5. Écoutez la Bretagne.
Vous écoutez Bretagne 5, c'est la matinale. On est ensemble jusqu'à 10h, il est 8h31.
Bretagne 5. L'invité de la matinale.
Et notre invité ce matin est Alain Alater. Il est président de l'Union régionale CFTC Bretagne. Il est également secrétaire général de l'Union départementale de la CFTC Côte d'Armor. Et il est avec nous en direct ce matin. Je l'en remercie. Bonjour.
Bonjour.
On va parler de ce projet de réforme des retraites qui a mis une fois encore la France dans la rue hier. Il y avait beaucoup de monde dans les cortèges. Ceci dit, un petit peu moins que lors des précédentes manifestations. C'est l'effet vacances ou c'est l'effet prochaine manifestation samedi ?
Bien écoutez, on pourra parler de vacances. Le gouvernement nous parle de grévistes en baisse, mais au final, quand vous avez effectivement, des enseignants qui sont déjà en vacances, on ne peut pas les compter comme des grévistes. Donc on est dans l'échange de chiffres qui n'ont pas de sens. Aujourd'hui, il n'y a pas d'essoufflement, on le sait. On sait que les gens sont encore dans la rue aujourd'hui, et même si c'est en baisse, les gens sont présents. Donc nous, au niveau des organisations syndicales, on en a échangé entre nous, on le savait. On savait qu'en proposant deux dates si rapprochées, on risquait ce mardi d'avoir moins de monde, mais ce n'était pas un risque. Parce que c'était une demande, en fait. Mm-hmm. Et comme nous sommes à l'écoute de la rue, des adhérents, des travailleurs, de manière globale, nous savions qu'il y avait une attente, une demande pour que cette manifestation se fasse aussi un samedi. On parle de manifestation. Mm-hmm. Et c'est exprimé, on l'entend dans les médias à droite et à gauche, mais nous, on le sait, il y a une demande et on répond à cette demande. Samedi, il y aura du monde. Voilà.
Vous avez déjà des... Alors, je ne vais peut-être pas dire des tendances, mais vous avez beaucoup de gens qui ont dit qu'ils allaient venir samedi, finalement, parce qu'ils ne peuvent pas, parce que ça coûte aussi une grève.
Voilà, voilà. Puis c'est aussi... c'est pas que... C'est l'organisation. Vous avez parfois, vous avez monsieur qui est en grève ou madame qui est en grève. Vous avez aussi l'enfant qui veut garder. Moi, j'entends, on a aussi des salariés qui nous disent que, bon, voilà, je ne peux pas venir à la manifestation parce que l'école est fermée, il faut que je garde mes enfants. Alors certaines viennent avec leurs enfants, ils peuvent le faire. Mmh. Et je le dis, samedi, vous pouvez venir. C'est peut-être osé parler comme ça, mais sur Saint-Brieuc, la manifestation, elle est calme, elle est constructive, elle est respectueuse, on respecte toutes les personnes qui sont présentes. On n'est pas tous d'accord sur le chiffre qu'on peut avancer à droite et à gauche, mais on est ensemble. Et tout le monde a sa place. Et ce que j'ai dit à la presse un jour, c'est « tout se passe bien ». Hein, monsieur Darmanin, tout se passe bien, faites-nous confiance, écoutez-nous.
On le voit d'ailleurs dans les cortèges, que ce soit à Saint-Brieuc ou un peu partout en France, hormis quelques incidents qui ont eu lieu à Paris hier, évidemment, ou dans quelques grandes villes où ça a été un peu plus chaud, si vous me permettez le terme. Les manifestations, ces mouvements de manifestations dans les rues, jusqu'à présent, se passent très bien.
Oui, les exceptions, elles existent, hein, en Bretagne en tout cas, on l'a vécu à Rennes. J'ai eu le retour des collègues CFTC de Rennes qui se sont fait agresser à la première manifestation, puisqu'il y a eu des lunettes qui ont volé, des gens qui ont été agressés physiquement, mmh. alors qu'ils étaient simples manifestants syndicaux. Et ça, c'était la première, il y a eu un débordement. Je suis membre de la conférence sociale, et en Bretagne, on a rencontré le président de région et le préfet de région la semaine dernière. Et l'expression du préfet de région, c'est dire qu'il fait son travail. Et effectivement, la deuxième manifestation sur Rennes, les choses étaient différentes. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que nous, on construit et on propose des choses concrètes et de manière paisible et construites tous ensemble aujourd'hui. Et ça se fait positivement. Et ces cas exceptionnels ne viendront pas détruire ce que nous sommes en train de construire en France. C'est-à-dire que les Français se reconnaissent dans ce que l'on propose aujourd'hui. Et ces quelques black blocs, hein, pour les citer, ou ces personnes, hein, parce que je crois qu'à un moment donné, on met des images sur des personnes qui, eux, sont sur des ruptures. Hein, et les ruptures, il y en a énormément en Bretagne, comme ailleurs. Ne viendront pas entacher ce que l'on réalise aujourd'hui. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est que les gens ne sont pas là pour détruire, ils sont là pour construire un avenir ensemble. Alors, tous ensemble, tous syndicats unis, et c'est ce que j'exprime aujourd'hui, il n'y a pas de différence. Mmh. Globalement, on arrive à trouver un consensus, et ce consensus se construit dans la rue, dans les rencontres qu'on fait dans les entreprises, parce qu'on est très sollicité aujourd'hui. On est sur une élection, sur une année d'élection dans les CSE, c'est 2023 où beaucoup de choses se passent, et la demande et l'écoute, elle est importante.
Sur le front de l'unité syndicale, le gouvernement avait plus ou moins parié que l'unité s'effrite ou s'essouffle, et il n'en est rien finalement. Et on a des syndicats très divers. Alors, vous, c'est la CFTC, mais on a aussi Sud, Solidaire, la CGT, etc. Avec des, peut-être des vues un peu différentes. Et là, il y a une vue commune.
Alors, si vous voulez, les vues différentes, elles sont gommées lorsqu'on se rencontre ensemble. C'est-à-dire qu'on arrive à se mettre d'accord, ne serait-ce que sur une déclaration. Et mardi, il y avait une déclaration unique. Voilà, avec des gens qui se sont dit, bon, là-dessus, on est d'accord. On accepte le fait que certains réclament le retour à la retraite à 60 ans, alors qu'aujourd'hui, c'est 62 ans. Mmh. Si on revient à 60 ans, ce en quoi notre organisation ne croit pas, on reste, je dirais, dans le respect que ont ces organisations syndicales, et on accepte cette différence et on l'écrit. Mmh. On écrit clairement dans notre déclaration l'acceptation que nous avons et ce pourquoi. Par contre, on maintient ce pourquoi on est là.
Le gouvernement ne plie pas sur l'âge de départ à la retraite, 64 ans. Elisabeth Borne l'a martelé, les différents intervenants du gouvernement l'ont martelé. Et tout ça se passe dans une ambiance assez électrique, puisque voilà, on est en plein examen du texte depuis hier à l'Assemblée nationale. Quel regard vous portez sur ce qui se passe justement dans l'hémicycle, qui est d'une violence assez rare?
Vous savez, le regard que porte un syndicaliste là-dessus n'est pas forcément intéressant, c'est le regard de Monsieur Tout-le-Monde. Monsieur Tout-le-Monde qui voit d'un côté les syndicats dans la rue unis, et de l'autre côté, un hémicycle où les gens, je dirais pas se tapent dessus, mais presque. Et c'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent, et on le sait, ils veulent que, à la limite, on parle de la retraite. Ils sont tous d'accord pour dire qu'est-ce qu'on fait. Ils veulent bien un projet de retraite, mais pas de ces échanges, pas de ce qui est proposé au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale, qui ne donne pas le bon exemple. On ne s'y retrouve pas.
La rue ne fait pas la loi, c'est ce qu'on a entendu lors des différents propos, des différentes expressions sur les chaînes de radio, les chaînes de télévision, des différents ministres qui sont venus, et le ministre du Travail l'a dit lui-même. Comment vous prenez cette parole ministérielle?
Ben, pourquoi pas, la rue, on ne fait pas la loi, on est entièrement d'accord. Mais la rue, c'est quand même une expression. Hein. C'est, si vous voulez, la démocratie s'est construite bien avant que la France et que la République se fassent. On sait ce que c'est qu'une démocratie. Il faut savoir écouter dans une démocratie. Et aujourd'hui, on a une démocratie qui ne convient pas. On a beaucoup de personnes, j'allais dire d'absentéisme, mais de personnes qui ne votent plus. Et donc, peut-être, mais il faudra peut-être se poser la question, pourquoi ils ne votent plus? Parce que si on se limite à ce que ces personnes décident, à ce qu'elles décident pour eux-mêmes parfois, parce que je peux vous dire une chose, c'est qu'en termes de retraite, si vous regardez ceux qu'ils ont négociés pour eux au niveau de l'Assemblée nationale, on est très très loin de ce que ils veulent nous imposer.
Donc, montre pas l'exemple,
voilà,
finalement.
C'est pas le bon exemple, mm-hmm. ce n'est pas un exemple. Ils font un excellent travail aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que moi, je connais les députés, je les respecte. On les rencontre. Tous ceux qui travaillent, même nous, je dirais, pour le bien de la République, de la démocratie, si tant est qu'elle soit une démocratie telle qu'on voudrait qu'elle vive, on les respecte. C'est énormément de temps, c'est beaucoup d'énergie. Mais nous, on en donne énormément, mais on n'est pas reconnu pour tel. Et aujourd'hui, on prend un peu notre revanche. Excusez-moi de le dire comme ça. Mais voilà, en termes de démocratie, nous sommes plus démocratiques dans ce que nous faisons qu'eux ne le sont.
La rue s'exprime dans un contexte particulier, contexte d'inflation, contexte d'incertitude, contexte de peur aussi. Il y a aussi un contexte géopolitique, il faut bien le dire, avec cette guerre en Ukraine, aux portes de l'Europe. Contexte d'incertitude aussi dans le monde du travail. La Covid est passée par là, les habitudes ont changé. Est-ce qu'il va falloir aussi, à un moment, réfléchir sur une forme d'adaptation au travail d'aujourd'hui, travail qui est important évidemment pour chaque Français, mais qui chaque Français aussi réclame un peu plus de liberté, de choix dans les loisirs par exemple.
Alors, effectivement, on parlait de Covid, on peut parler de tout ce qu'on a traversé, mais on parlait du Covid qui nous a amené à réfléchir énormément sur comment nous vivons, où nous vivons, et on a vu effectivement une migration se faire.
Il y a une demande de sens, hein, finalement.
Ah, complètement. Complètement. Et effectivement, si ça a été tragique, si il y a eu beaucoup de décès, il y en a toujours, mais c'est globalement, ça nous a amené à réfléchir sur un sens de vie, et des gens qui ont complètement changé leur mode de vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des personnes qui sont revenues en Bretagne, sur la Bretagne, et quand je dis la Bretagne, toute la Bretagne, qui nous sont arrivées. Moi, je l'ai vécu dans l'éducation, dans l'enseignement. On a eu beaucoup de demandes d'intégration, et on a eu la chance de pouvoir le réaliser, parce que on a besoin d'enseignants, et de très bons enseignants. Mais c'est effectivement, on sent que c'était une évolution qui s'est faite, mais j'ai vu des enseignants quitter l'éducation nationale parce qu'ils ne s'y retrouvaient plus et partir sur d'autres métiers. Donc on a une grosse demande, et moi je le vis dans cette catégorie professionnelle, une grosse demande pour pouvoir se réorienter. On a beaucoup de questions, on voit que la demande individuelle pour les organismes auxquels j'appartiens qui se fait et auxquels on essaye de répondre.
Cette envie de changer de vie, elle se traduit aussi parfois par des démissions. Alors, on a ce phénomène aux États-Unis, des gens qui quittent leur travail du jour au lendemain parce qu'ils n'y trouvent plus de sens, finalement, qu'ils préfèrent aller faire d'autres activités. On a aussi le sentiment, alors peut-être pour les jeunes générations qui ne travaillent plus du tout comme les anciennes générations, aujourd'hui, on ne fait plus une carrière de 40 ans dans la même entreprise où c'est un peu plus rare. Aujourd'hui, on a des besoins d'expérience au niveau du travail. Est-ce qu'il faudra aussi s'adapter à ce niveau-là? Est-ce qu'il faudra aussi, tout simplement, que le gouvernement puisse s'adapter, ne serait-ce que sur cette réforme des retraites?
Et bien, vous posez une excellente question, excusez-moi de le dire. Effectivement, l'adaptation, elle doit se faire. Le système éducatif a beaucoup évolué aujourd'hui. Vous pouvez vous former, on ne va pas dire tout seul, ce serait une anomalie, mais on a vu même, je dirais, dans le retour du Covid, beaucoup de personnes qui ont voulu reprendre l'enseignement à domicile. Bon, je crois qu'ils s'en sont mordus un peu les doigts. Mais la réflexion, là, si, se fait aussi sur la manière dont on peut se former. Et les outils sont multiples. Mais nous avons un excellent système de formation. Je ne parle pas forcément de l'éducation nationale. Nous avons ici, dans les Côtes d'Armor, un centre qui s'appelle le CNAM, qui répond à beaucoup de demandes et qui s'est bien développé, qui a bien ouvert. Je suis également administrateur du CNAM.
Voilà, aujourd'hui, je n'ai pas donné tous vos titres.
Hein. Non, ce n'est pas des titres, hein, en fait. Hein, c'est des responsabilités.
Voilà. Ouais. Justement, cette demande de sens à sa vie professionnelle, on ne l'avait pas il y a quelques années. Alors évidemment, je parlais de la Covid, mais il y a une sorte aussi de prise à la réalité. On le voit aussi, ne serait-ce que par l'environnement. On a beaucoup, alors là, peut-être plus pour la jeune génération qui s'inquiète, évidemment, des problèmes environnementaux, une envie de s'intégrer, de travailler dans des métiers qui vont peut-être aller dans le sens d'une meilleure protection de l'environnement, d'une meilleure éthique. Il y a une demande aussi d'éthique vis-à-vis des entreprises, pas par les salariés, en tout cas par les plus jeunes d'entre eux.
Alors, pour ce qui dit salariés, dans le meilleur global, je vais dire globalement, non. Le salarié veut bien vivre dans son travail. Il veut, aujourd'hui, notre lutte, elle est plutôt dans comment mieux vivre son travail, parce que quelque part, on aime son travail. Moi, j'ai eu un échange vendredi un peu ubuesque avec le conseil régional sur ce qu'ils ont fait sur le transport scolaire. Je peux vous dire que dans le domaine du transport, on a beaucoup à dire sur la manière dont les gens vivent, ce qu'on appelle la coupure. On fait des transports le matin, vous en faites l'après-midi. Mais entre deux, voilà, quelque part, vous n'êtes pas reconnu dans l'entièreté de votre mission. Et on se dit, en fait, notre combat, et notre principal combat, ce n'est pas qu'à la retraite aujourd'hui, c'est l'amélioration des conditions de travail. Et aujourd'hui, comme on manque de main-d'œuvre, on a devant nous un espace du dialogue qui s'est ouvert. Je dis un espace du dialogue parce qu'il faut y mettre des graines, il faut y mettre des idées. Il faut émettre, une appétence. Hein, comment faire évoluer la société dans laquelle nous sommes? Pas forcément en changeant de métier, mais en améliorant le métier, en améliorant les conditions du métier. Hein, la pénibilité, on en parle énormément, mais la pénibilité, elle a plusieurs formes. C'est-à-dire que vous levez très tôt, à 4h du matin, pour prendre un transport scolaire, et devoir vous arrêter à 9h30 pour pouvoir reprendre tard le soir, je peux vous dire que vous allez vous coucher peut-être tôt le soir pour pouvoir reprendre tôt le matin. Vous avez une vie qui est usante, mais pas reconnue en termes de pénibilité. Mais ça peut
s'améliorer. Il y a une usure psychologique aussi, au-delà de l'usure du corps.
Oui, alors, des mesures... Oui, l'usure psychologique, c'est une évidence. Ouais. Moi, je le vois. En tout cas, je le constate. Les gens, dans le domaine du transport scolaire, dès qu'ils peuvent, s'ils peuvent aller vers du transport de fret, ils le feront. Mmh. Voilà, c'est cette érosion qu'on voit. Donc, on s'aperçoit que ce n'est pas en remplaçant les personnes qui partent régulièrement qu'on va répondre à la problématique dans ce métier, mais dans d'autres métiers. Mmh. Vous regardez dans le commerce, dans ceux qui font de la vente en quantité, vous avez d'usure aussi sur une caisse. Hein, une caissière va s'user parce que quelque part, il est TMS. Mmh. Vous avez des usures sur les chaînes de production. Et la question, c'est comment améliorer sur le temps de travail. Et on revient sur des propositions de... Je vais penser à un Breton qui était peut-être socialiste à une époque, qui disait travailler beaucoup moins, parce que quelque part aujourd'hui, on a une société où la productivité a augmenté. C'était une belle idée, quelque part, sur le fond. Et il était dans le vrai. Aujourd'hui, on s'aperçoit que ça ne sert à rien de travailler trop, il faut travailler bien pour vivre correctement et se donner du temps pour vivre. Et pour pouvoir se parler, se rencontrer, pour pouvoir écouter une radio éventuellement.
C'est très important d'écouter la radio, on y dit des choses très intéressantes. Il y a également, Alain Latère, cet aspect humain que vous décrivez très bien, puis il y a une grande précarité au travail aussi. On a des travailleurs précaires qui dorment dans leur véhicule, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, comme l'on dit aujourd'hui. Oui. Quelque chose qui est inadmissible aujourd'hui en France, et ça a lieu aussi à nos portes en Bretagne. On pense aussi aux étudiants qui ont beaucoup de mal à vivre. Ils sont descendus dans la rue d'ailleurs, les étudiants, les jeunes, les lycéens même, qui s'inquiètent pour leur avenir.
Ils ont raison. Ceux qui ont tort, ce sont ceux qui se renferment. C'est-à-dire que ceux qui disent « tout va bien tant qu'on ne touche pas à ma maison, tant qu'on ne touche pas à ma pension, à ma... » Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une société qui est de plus en plus individualiste. Et c'est horrible de voir ces gens de plus en plus poussés dans leur voiture, dans leur précarité, alors que quelque part, on pourrait un peu plus réfléchir sur ce qu'ils sont. Pas forcément, on ne demande pas d'aider sur des moyens, on demande d'accepter ce qu'ils sont aussi, de se dire, allez, qu'allons-nous faire pour améliorer ces situations ? Parce que c'est du logement. Mmh. On voit aujourd'hui la précarité dans le logement, c'est très difficile de se loger. Ça devient plus difficile, en tout cas, de se loger en Bretagne, y compris en Bretagne intérieure. Sur la côte, on n'en parle même pas. C'est juste pas possible. Donc, qu'est-ce qu'on en fait pour ces gens-là, pour qu'ils puissent travailler là où ils sont, alors qu'aujourd'hui, le carburant, il est très, 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 très... Vous êtes sur les prix de carburant qui sont... On ne peut plus travailler et vivre comme on le faisait il y a quelques années. Et ça pousse les gens dans des situations comme celle-ci. Donc, je crois qu'à un moment donné, il faut prendre cette prise de conscience sur l'individualisme tel qu'on a poussé dans cette société, où chacun est devenu un consommateur dans une société libérale. Et c'est pas un marxiste qui vous parle. C'est juste, un chrétien qui vous dit, à un moment donné, il faut peut-être arrêter et chasser un peu les marchands du temple, comme on l'a fait à une époque, et de se dire, qu'est-ce qu'on veut ? Et comment on veut ? Et avec qui on va faire ?
Justement, cette valeur humaine, aujourd'hui, on a l'impression qu'elle revient au centre des préoccupations, à la lueur, si j'ose dire, de ce qui se passe dans la rue, mais aussi elle interroge sur la place du politique. Il y a une grande fracture, vous le disiez tout à l'heure, les gens ne vont plus voter. Il y a une grande fracture entre la société civile et la représentation politique. Est-ce qu'il est temps, si on veut conserver notre démocratie et ne pas sombrer vers les abîmes, si vous me permettez, de reprendre cela en main et de refaire société, c'est le terme qu'on emploie beaucoup.
Refaire société sans, j'irais revenir sur une des notions de révolution. Mmh. Il faut savoir se révolutionner soi-même, se changer soi-même et comprendre et prendre conscience. Je crois que c'est la prise de conscience que l'on fait aujourd'hui et c'est ce qui se passe dans le mouvement que nous agrégeons entre syndicats. Ce partage, on est dans la rue aujourd'hui et on se parle entre nous, tous syndicats confondus, on s'accepte tous dans nos différences et il faut aller au-delà de ça. C'est-à-dire que, la prise de conscience, puisque la révolution, certains parlent de révolution, mais c'est brutal, c'est pas ce que veut le français. Il faut que le français comprenne aussi que pour pouvoir révolutionner le système, il faut qu'il se révolutionne aussi un petit peu dans ce qu'ils sont, dans leur individualisme, dans leur confort, zone de confort, parce que tout le monde n'est pas dans cette zone-là et c'est pas en le disant. Mmh. Il faudra trouver d'autres méthodes, d'autres moyens pour pouvoir évoluer. Je ne le sais pas. Honnêtement, je vais vous dire, je ne le disais pas, mais il faut se le dire, il faut l'exprimer. Vous avez pas mal de prises de parole qui se font, pas mal de personnes qui se rencontrent, et je trouve qu'aujourd'hui, on commence à dire les choses. On est juste dans le commencement. Et c'est pas dans des grosses manifestations où on va tout casser. Moi, j'y crois pas. Malheureusement, j'ai beaucoup de respect vis-à-vis des Gilets jaunes dans ce qu'ils ont réalisé. Mais aujourd'hui, quand on voit le prix du carburant et ce pourquoi ils se sont mobilisés, je me dis que le Français a tout oublié. Mmh. Ou pas. Mais globalement, là, aujourd'hui, le carburant à 2 euros, alors qu'on était à 1,50 euros, même pas à cette époque-là, je n'arrive pas à comprendre tout.
Voilà. Vous craignez une forme de lassitude, quelque part ? Bien que les gens se parlent, hein, on l'a vu dans les cortèges, les gens se parlent.
La lassitude, je pense pas. Mmh. Lassitude. Par contre, les personnes qui disent bon bah on peut pas faire autrement, c'est comme ça, on a essayé, les votes ça sert à rien. C'est pas la lassitude, c'est à un moment donné, c'est de se dire et moi en tout cas c'est ma conclusion personnelle, c'est on n'est pas dans le bon système démocratique. Mmh.
Il faut revoir ce système, il faut le repenser.
Oui. Ouais. Il faut repenser la manière dont on. Parce qu'aujourd'hui, on est toujours dans un système où on va voter pour les gens qui nous proposent des projets, alors qu'on devrait d'abord penser au projet. Moi, je suis un peu un athénien là-dessus, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut faire de ces sociétés, et se dire que le vote, alors, sans rentrer dans des référendums, etc., mais comment on veut penser notre société ? C'est à nous de le faire, et c'est à nous, peut-être nous, syndicats, de dire, voilà, pour le travail, pour la vie, pour le trajet, pour le logement, et c'est nos compétences. Aujourd'hui, ce sont encore nos compétences. On essaye de nous les voler. Hein. C'est-à-dire que le gouvernement fait tout pour nous enlever les choix de société. Sur le logement, il prend tous les moyens. Sur la formation, il prend tous les moyens. Il les oriente comme bon lui semble, ce qui lui semble essentiel, sans prendre conscience que c'est du vol. Enfin, excusez-moi de le dire. On est en train de nous voler ce qu'on avait et on ne peut pas l'accepter.
On a vu, vous faisiez référence tout à l'heure à Alain Latterre, à ces manifestations des Gilets jaunes. Il y a eu ces cahiers de doléances où les gens se sont parfois même lâchés, parfois on pleurait. Hein, on a vu des gens pleurer en écrivant ces cahiers de doléances qui ont été un petit peu relégués aux oubliettes de l'histoire. En tout cas, on n'en a pas tiré l'enseignement.
Ouais, je suis d'accord, c'est la preuve que le système ne fonctionne pas. Excusez-moi, dès lors où vous avez des choses... une expression forte qui s'est faite et qui a mis à jour des choses qu'on ne voyait pas, qu'on ne voulait pas regarder. Mmh. Et là, je parle de nos zones de confort et autres. Hein. Il fallait qu'ils nous bloquent dans les ronds-points pour qu'on s'en rende compte. Eh bien, c'est de se dire qu'aujourd'hui, le système étouffe à chaque fois, de manière, manière sordide, la voix du peuple.
La voix du peuple est importante. Il y a une grande colère aujourd'hui dans la société, même si elle reste contenue. Et c'est peut-être aussi le rôle des organisations syndicales d'arriver aussi à une forme de canalisation de cette colère. En tout cas, ça se passe bien dans la rue. Les gens dialoguent. On a vu beaucoup de dialogues aussi intergénérationnels. Les anciens qui parlent aux plus jeunes, qui essaient d'échanger. Est-ce que pour vous, c'est déjà un point de départ intéressant ?
Ça a toujours été. Ça a toujours été. C'est juste qu'on se rend compte aujourd'hui, une fois de plus, que ce dialogue, il est là, et que l'intergénérationnel fonctionne. On aime ses enfants, on aime ses petits-enfants. Ses voisins, ils sont à côté, il ne faut pas les oublier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Covid nous a permis de nous rendre compte qu'on avait des voisins, et qu'on devait vivre ensemble, qu'on s'apportait des choses les uns aux autres. C'est le côté positif, hein. C'est des crises. Une crise crée des réactions, des actions et des réactions. Et moi, je vois aujourd'hui, c'est qu'on reconnaît un peu plus ses voisins, et on a besoin de se connaître. Dans nos différences, dans ce qu'on s'apporte les uns aux autres. Voilà.
Alors, dans la rue, les différences, elles se sont mêlées, justement, dans ces cortèges. Mais on entend deux voix. On entend la voix de l'apaisement, c'est votre voix, et on entend aussi la voix de la colère. Est-ce que vous craignez, si vraiment le gouvernement ne bougeait pas sur ce projet de réforme des retraites, si le projet passait, que par désespérance, la colère aille un peu plus loin ?
C'est malheureusement la manière dont certains communiquent aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on veut toujours nous faire agiter des... C'est pas le mien. Voilà, la vision très négative de ce qui pourrait se passer si ça allait pas bien. Peut-être, mais si vous voulez, c'est déjà le cas sur le front de l'Est, hein, en Ukraine. On parle beaucoup de ce qui pourrait faire mal. On nous parle de traitement... Excusez-moi, le rôle des médias aujourd'hui, je parle pas de vous.
Non, mais c'est important. C'est important de le dire,
médias,
la parole est
libre. Le rôle des médias aujourd'hui, excusez-moi, c'est de foutre le bordel. Hein, c'est d'aller chercher ce qui peut effectivement faire des vagues et ne pas forcément nourrir comme il faut l'être humain. Et ça, c'est, on est une société de consommation, une société médiatique. Hein. Bon, ce sont des beaux métiers hein, que vous faites, que font vos collègues, mais voilà.
Alors, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Nous, ici, on essaie quand même de ouais. beaucoup parler, de laisser la parole. Elle est libre, cette parole, c'est important, tant qu'on pourra le faire, en tout cas. Ouais. Voilà. Les médias ont un rôle important aussi dans ce dialogue, dans cette parole.
Une responsabilité. Une responsabilité. C'est-à-dire que dès lors où vous faites des choix médiatiquement de laisser parler les uns les autres, moi, j'ai eu beaucoup de bonheur à venir ici, comme j'ai eu du plaisir à écouter France Inter en venant ce matin. C'est pas les radios en elles-mêmes qui posent souci, excusez-moi de le dire. C'est ce que les grands médias, les télés vous balancent. Et quand vous voyez la manière dont on gère nos aînés, hein, dans des EHPAD, on en reparlera aussi, on les met derrière des télés, on ne donne pas les moyens de les accompagner. Les enfants, on les a abandonnés aussi parfois. La société, sa réflexion, elle va très très loin. Hein, et le média, c'est la télé, dans quoi on va enfermer les gens, dans combien il y a de chaînes, combien de chaînes vous allez pouvoir regarder, et qu'est-ce que vous allez en retirer? Rien. Excusez-moi, je veux dire rien, si ce n'est qu'on va vous enfermer dedans, et puis une fois que vous serez dedans, c'est fini. Comme dans un EHPAD. Malheureusement, c'est un mauvais EHPAD, excusez-moi, il y a des bons EHPAD. Bon, je vais me faire attirer, je vais perdre des adhérents là. Mais dans un mauvais EHPAD, où à la limite, on a mis quelqu'un parce qu'on n'avait pas les moyens de faire autrement. Et j'ai beaucoup de respect par rapport aux personnes qui font ce métier-là. On les a vus dans la rue, des jeunes qui sont venus manifester aussi, se faire grève pour dire que voilà, eux aussi, ils ont des conditions de travail qui ne sont pas bonnes et ils s'aperçoivent qu'ils ne pourront pas faire leur métier toute leur vie parce que 64 ans, ça ne sera pas possible. Donc, je suis désolé, moi, je vais revoir aussi le côté humain de ces personnes qui travaillent, qui œuvrent avec peu de moyens, à qui on donne des tâches avec un temps court et qui n'ont pas forcément le temps de s'occuper de leurs aînés. Donc là, on s'aperçoit qu'on fait du business, parfois dans des EHPAD, et ça, on l'a vécu. Mais voilà, d'un côté, vous avez ceux qu'on met devant leur télé, moi j'ai parlé de médias, de l'autre côté, vous avez les gens qui n'ont pas les moyens de rapporter le reste, et d'autres qui ne veulent pas en donner plus. Et je crois que une personne âgée qui peut rester chez lui avec... peut-être, ce qui se fait de plus en plus, un contact plus fréquent avec sa famille, avec peut-être un infirmier ou des personnes qui viennent s'occuper de lui. Oui, ça a du sens. Je crois qu'il faut pas se déconnecter, il faut pas perdre de vue qu'il y a des gens qui ont la chance d'avoir une maison. Pourquoi est-ce qu'on voudrait les mettre derrière une télé et derrière un petit logement ?
On va devoir s'arrêter là. Oui. Alain Latère, je regardais l'horloge et mon réalisateur me fait les yeux noirs parce que voilà, c'est déjà l'heure de nous quitter. Merci d'être venu. J'allais dire apporter de l'humanisme aussi autour de ces manifestations contre le projet de réforme des retraites. Et j'imagine que vous serez dans les cortèges samedi.
Non.
Non, vous n'êtes pas samedi.
Je serai à l'hôpital, je rentre pour une opération cardiaque.
Voilà, eh bien on vous souhaite plein de bonnes choses, on vous donne toutes nos bonnes ondes.
Merci.
Et merci d'être venu jusqu'à nous ce matin. À très bientôt. Je rappelle, Alain Alatère, président de l'Union régionale CFTC Bretagne, secrétaire général de l'Union départementale de la CFTC Côte d'Armor, en direct avec nous ce matin. À très bientôt et bon courage. Hein.
Merci.
Bretagne 5 matin. Stéphane Hamon. Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.